Le piège du luxe. L'essor de l'agriculture se fit très progressivement au fil des siècles et des millénaires. Une bande d'homo sapiens cueillant des champignons et des noix, ou chassant le cerf et le lapin, ne s'établit pas du jour au lendemain dans un village permanent pour retourner la terre, semer du blé et acheminer de l'eau depuis la rivière. Le changement se fit par étapes, moyennant chaque fois une petite altération de la vie quotidienne. Homo sapiens arriva au Moyen-Orient il y a quelque 70 000 ans. Au cours des 50 000 ans suivants, nos ancêtres y fleurirent sans agriculture. Les ressources de la région étaient suffisantes pour entretenir sa population. En temps d'abondance, nos ancêtres avaient un peu plus d'enfants. En temps de pénurie, un peu moins. Comme beaucoup de mammifères, les hommes sont pourvus de mécanismes hormonaux et génétiques qui aident à contrôler la procréation. En période faste, les femelles arrivent à la puberté plus tôt et leurs chances de tomber enceintes sont un peu plus grandes. Dans les périodes sombres, la puberté tarde, la fécondité décroît. À ces contrôles naturels de la population vinrent s'ajouter des mécanismes culturels. Bébés et petits-enfants, qui évoluent lentement et requièrent beaucoup d'attention, étaient un fardeau pour les fourrageurs nomades qui essayaient d'espacer les naissances de 3 ou 4 ans. Les femmes le faisaient en ne cessant d'allaiter leurs enfants qu'à un âge avancé. Donner le sein réduit sensiblement le risque de tomber enceinte. Mais il existait d'autres méthodes. L'abstinence totale ou partielle, étayée peut-être par des tabous culturels, l'avortement et à l'occasion, l'infanticide. Tout au long de ces millénaires, il arrivait à nos ancêtres de manger des grains de blé, mais ce n'était qu'un élément marginal de leur alimentation. Voici environ 18 000 ans, le dernier âge glaciaire céda la place à une période de réchauffement mondial. Les pluies augmentèrent en même temps que les températures. Le nouveau climat était idéal pour le blé et d'autres céréales du Moyen-Orient qui se multiplièrent et se répandirent. Les gens se mirent à manger plus de blé et, ce faisant, propagèrent sans le vouloir son essor. Comme il était impossible de manger des grains sauvages sans commencer par les vanner, les moudre et les cuire, ceux qui les récoltaient les rapportaient à leur camp temporaire pour les transformer. Les grains de blé sont petits et nombreux. Inévitablement, certains tombaient sur le chemin du camp et se perdaient. Avec le temps, il y eut toujours plus de blé le long des trajets favoris et près des camps. Quand les hommes brûlaient forêts et fourrés, cela aidait également le blé. Le feu éliminait les arbres et les arbustes, permettant au blé et à d'autres herbes de monopoliser le soleil, l'eau et les nutriments. Le blé devenant particulièrement abondant, il en alla de même pour le gibier et d'autres ressources alimentaires, et les bandes humaines purent progressivement délaisser leur style de vie nomade pour s'établir en camps saisonniers, voire permanents. Au début, ils pouvaient s'arrêter 4 semaines durant, le temps de la moisson. Une génération plus tard, les plants de blé se multipliant et se propageant, le camp pouvait rester 5 semaines, puis 6, pour se transformer finalement en village permanent. On a retrouvé des traces de ces implantations à travers tout le Moyen-Orient, notamment au Levant, où la culture natoufienne s'épanouit entre 12 500 et 9 500 avant notre ère. Les natoufiens étaient des chasseurs-cueilleurs, qui se nourrissaient de plusieurs douzaines d'espèces sauvages, mais vivaient en village permanent et passaient une bonne partie de leur temps à la cueillette intensive et à la transformation des céréales sauvages. Ils construisirent des maisons et des greniers de pierre, stockant le grain en prévision de périodes de disette. Ils inventèrent de nouveaux outils, des faux de pierre pour moissonner le blé sauvage, ainsi que des pilons et des mortiers pour le broyer. Après 9500 avant l'ère commune, les descendants des natoufiens continuèrent à cueillir et à transformer les céréales, mais se mirent aussi à les cultiver de façon toujours plus élaborée. Quand ils récoltaient les grains sauvages, ils prenaient soin de mettre de côté une partie de la moisson pour ensemencer les champs la saison suivante. Ils s'aperçurent qu'ils pouvaient obtenir de bien meilleurs résultats en semant les grains en profondeur, plutôt qu'en les éparpillant de manière aléatoire à la surface. Ils se mirent alors à biner et à labourer. Peu à peu, ils eurent l'idée de sarcler, de préserver les champs des parasites, de les arroser et de les fertiliser. Le surcroît d'efforts consacrés à la culture céréalière laissait moins de temps pour cueillir et chasser des espèces sauvages. Les fourrageurs se transformèrent en cultivateurs. Entre la femme qui ramasse du blé sauvage et celle qui cultive le blé domestiqué, il n'y a pas vraiment de solution de continuité tranchée. Il est donc difficile de dire à quel moment exactement se fit la transition agricole décisive. En 8500 avant notre ère, cependant, le Moyen-Orient était parsemé de villages permanents comme Jéricho, dont les habitants passaient le plus clair de leur temps à cultiver quelques espèces domestiquées. Avec le passage aux villages permanents et l'augmentation de l'offre alimentaire, la population commença à croître. L'abandon du nomadisme permit aux femmes d'avoir un enfant chaque année. Les bébés étaient sevrés plus tôt, puisqu'on pouvait les nourrir de bouillie et de gruau. On avait terriblement besoin de mains supplémentaires aux champs, mais les bouches supplémentaires eurent au fait d'engloutir le surplus alimentaire, obligeant à cultiver de nouveaux champs. Alors que la population vivait dans des campements infestés de maladies, que les enfants se nourrissaient davantage de céréales et moins de lait maternel, et devaient disputer leur bouillie à plus de frères et de sœurs, la mortalité infantile monta en flèche. Dans la plupart des sociétés agricoles, au moins un enfant sur trois mourait avant d'atteindre ses 20 ans. Mais la natalité continua d'augmenter plus vite que la mortalité. Les hommes avaient toujours plus d'enfants. Avec le temps, le marché du blé devint de plus en plus pesant. Les enfants mouraient en masse, les adultes mangeaient du pain à la sueur de leur front. L'habitant moyen de Jéricho, en 8500 avant notre ère, avait une vie plus rude qu'en 9500 ou 13000 avant Jésus-Christ. Mais personne ne comprit ce qu'il se passait. Chaque génération continua de vivre comme la génération précédente, moyennant de petites améliorations ici ou là dans la manière de procéder. Paradoxalement, une série d'améliorations, toutes censées rendre la vie plus facile, ajoutèrent une meule autour du cou de ces cultivateurs. Pourquoi cette erreur de calcul fatidique? Les raisons sont les mêmes que tout au long de l'histoire. Les gens ont été incapables de mesurer toutes les conséquences de leurs décisions. Chaque fois qu'ils décidèrent d'accomplir une tâche supplémentaire, mettons de biner au lieu d'éparpiller les semences à la surface des champs, ils se dirent « Il va falloir en effet travailler plus dur, mais la moisson sera si abondante. Nous n'aurons plus à nous inquiéter des années maigres. Nos enfants ne se coucheront pas affamés. » Cela avait du sens. Travailler plus pour gagner plus. Plus belle la vie, tel était le plan. La première partie se déroula en douceur. Les gens travaillèrent bel et bien davantage. Mais ils n'avaient pas prévu que le nombre d'enfants augmenterait et que le surcroît de blé devrait être partagé entre plus d'enfants. Les premiers cultivateurs ne comprirent pas davantage que nourrir les enfants avec plus de bouillie et moins de lait maternel affaiblirait leur système immunitaire et que les peuplements permanents seraient des pépinières de maladies infectieuses. Ils ne devinèrent pas qu'en augmentant leur dépendance envers une source de nourriture unique, ils s'exposaient davantage encore aux déprédations de la sécheresse. Ils n'avaient pas non plus prévu que, les bonnes années, leurs greniers florissants tenteraient les voleurs et les ennemis, les obligeant à construire des murs et à monter la garde. Mais alors, que n'ont-ils abandonné l'agriculture quand le plan se retourna contre eux? En partie, parce qu'il fallut des générations pour s'apercevoir que les petits changements s'accumulaient et transformaient la société, et qu'à ce moment-là, personne ne se souvenait avoir jamais vécu autrement. Et en partie parce que la croissance démographique brûla les vaisseaux de l'humanité. Si l'adoption du labourage fit passer la population d'un village de 100 à 110, quels sont les 10 qui eussent été volontaires pour mourir de faim afin que les autres reviennent au bon vieux temps? Impossible de revenir en arrière. Le piège s'était refermé. La poursuite d'une vie plus facile engendra de rudes épreuves. Et ce ne fut pas la dernière fois. Cela nous arrive aussi aujourd'hui. Combien de jeunes étudiants ont trouvé une place dans de grandes entreprises, acceptant de bosser dur dans l'idée de se faire un petit pécule qui leur permettrait de se retirer et de s'occuper de ce qui les intéresse vraiment quand ils auront 35 ans? Mais quand ils arrivent à cet âge, ils ont de lourdes hypothèques sur le dos, des enfants à l'école, une maison dans une banlieue huppée qui nécessite au moins 2 voitures par famille, et le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans un excellent vin et des vacances coûteuses à l'étranger. Que faire? Revenir à la recherche de tubercules? Non, redoubler d'efforts et continuer de trimer. Une des lois d'airain de l'histoire est que les produits de luxe deviennent des nécessités et engendrent de nouvelles obligations. Dès lors que les gens sont habitués à un certain luxe, ils le tiennent pour acquis, puis se mettent à compter dessus, et ils finissent par ne plus pouvoir s'en passer. Prenons un autre exemple familier de notre temps. Au fil des dernières décennies, nous avons inventé d'innombrables moyens de gagner du temps qui sont censés nous faciliter la vie. Machine à laver, aspirateur, lave-vaisselle, téléphone, iPhone, ordinateur, e-mail. Auparavant, écrire une lettre, indiquer l'adresse, la timbrer et la porter à la boîte était un gros travail. Il fallait des jours ou des semaines, voire des mois, pour recevoir une réponse. Désormais, je peux rédiger en quatrième vitesse un mail qui va faire un demi-tour du monde et, si mon destinataire est en ligne, recevoir une réponse une minute après. Autant de soucis épargnés et de temps gagné. Mais ma vie est-elle plus détendue? Hélas non. À l'époque du courrier postal escargot, on écrivait que si l'on avait des choses importantes à dire. Au lieu d'écrire la première chose qui vous passait par la tête, vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous vouliez dire et à la manière de le formuler. Et on s'attendait à recevoir une réponse tout aussi mûrement réfléchie. La plupart des gens n'écrivaient et ne recevaient pas plus d'une poignée de lettres par mois et se sentaient rarement obligés d'y répondre immédiatement. Maintenant, je reçois des dizaines de mails tous les jours, chaque fois de gens qui attendent une réponse rapide. Nous imaginions gagner du temps, au lieu de quoi la routine de la vie s'est emballée. Tout va 10 fois plus vite qu'avant et rend nos journées angoissées et agitées. Ici ou là, un ludite résiste et refuse d'ouvrir un compte de messagerie électronique, de même que, voici des milliers d'années, certaines bandes humaines refusèrent de travailler la terre et échappèrent ainsi au piège du luxe. Mais la révolution agricole n'avait pas besoin de la mobilisation de toutes les bandes d'une région donnée. Il suffisait d'une. Du jour où une bande se fixa et se mit à labourer, que ce soit au Moyen-Orient ou en Amérique centrale, l'agriculture fut irrésistible. Et comme celle-ci créa les conditions d'une croissance démographique rapide, les cultivateurs purent habituellement l'emporter sur les fourrageurs par la simple force de leurs effectifs. Il ne restait alors aux fourrageurs qu'à fuir, à abandonner leurs terrains de chasse, aux champs et aux pâturages, ou à se mettre eux-mêmes à retourner la terre. Dans les deux cas, la vie ancienne était condamnée. L'histoire du piège du luxe est porteuse d'une leçon importante. La recherche par l'humanité d'une vie plus facile a libéré des forces de changement immenses qui ont transformé le monde d'une façon que personne n'envisageait ni ne désirait. Personne ne complota d'accomplir la révolution agricole ni ne voulut rendre l'humanité tributaire de la culture des céréales. Une chaîne de décisions triviales, visant essentiellement à remplir quelques ventres et à gagner un peu de sécurité, eut pour effet cumulé de forcer d'anciens fourrageurs à passer leur journée à porter des seaux d'eau sous un soleil de plomb.